Sandrine, Nathanaël, c'est Positif Morning.
Le Positif Morning continue jusqu'à 10h et nous consacrons cette dernière heure à la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Alors, c'est pas aujourd'hui, c'est lundi, mais pour être sûr justement qu'on puisse creuser le sujet avec vous et que tout le monde soit là, si je puis dire, on a choisi de le traiter aujourd'hui avec notre invité qui était déjà avec nous pour une petite interview. Il est avec nous jusqu'à 10h, Gaël Ledors. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président de l'association de la Maison de l'autisme qui se trouve à Mulhouse, dans l'est de la France. Vous êtes avec nous jusqu'à 10h. On prend d'ailleurs toutes les questions auditeurs ce matin, n'hésitez pas, c'est à vous.
Exactement, plus 33 652 300 342, tout ce que vous avez comme question d'interrogation sur les troubles autistiques, eh bien c'est dès à présent que vous pouvez les laisser également sur la page Facebook de Phare FM. Première question avant d'aller plus loin, Gaël, c'est quoi cette maison de l'association de l'autisme? C'est inédit, semble-t-il.
Alors, c'est un projet qui vise à la création d'une structure ouverte et conviviale pour des adultes autistes sans déficience intellectuelle, avec plusieurs objectifs. D'abord, faciliter leur socialisation et leur inclusion dans la société, les accompagner vers l'autonomie et l'insertion professionnelle à travers la paire aidance, et favoriser la pratique artistique, les aider à vendre leurs œuvres, les orienter, les informer également vers des structures, les accompagner aussi dans les démarches de diagnostic, etc. Ce qui est original dans notre projet, c'est du coup, c'est pour la première fois, ce sera un projet qui sera entièrement réalisé par des personnes autistes et pour des personnes autistes.
Voilà, et on peut préciser aussi que vous êtes vous-même autiste.
Voilà, c'est ça, j'ai été diagnostiqué il y a 2 ans de ça.
Il y a 2 ans, donc assez tardivement, on va justement parler de tout cela, de la définition dans un instant de l'autisme, comment on peut aussi repérer une personne à trouble autistique. Ça sera dans un instant, vos questions, réactions sur la page Facebook et sur le numéro de Phare FM.
0033 652 300 342, cette dernière heure de matinale est consacrée à la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Vous avez des questions, n'hésitez pas, notre invité est là pour vous répondre jusqu'à 10h.
Positif Morning sur Phare FM.
Et avant d'aller dans les questions pointues et détaillées, je pense qu'il faut qu'on commence, Gaël, à définir ce qu'est l'autisme. Et il y a différents types d'autisme, c'est ça?
Oui, en quelque sorte. Alors en fait, on dit qu'il y a autant de types d'autisme que d'autistes.
D'accord.
Donc ça fait beaucoup.
Oui.
En fait, l'autisme, c'est un trouble neurodéveloppemental, donc c'est-à-dire que ça touche le système nerveux et le cerveau. Donc forcément, chaque individu, ça va se développer différemment. Ça touche environ 1% de la population et en fait, ça va jouer sur des particularités sensorielles et des particularités cognitives. Donc les particularités sensorielles, c'est-à-dire une perception du monde qui va être différente en gros de la population typique, avec des personnes qui vont avoir des sens qui vont plutôt être hypersensibles, d'autres sens qui vont être hyposensibles. Chaque personne va avoir un profil sensoriel comme ça qui va être différent. Et ces particularités sensorielles, ça peut se manifester. Donc, par exemple, au niveau auditif, les personnes, généralement, elles perçoivent les sons à plat. Au niveau visuel, les personnes sont très fatiguées par les néons, etc. Enfin, voilà, toutes ces particularités sensorielles, suivant l'intensité, suivant le profil, ça peut entraîner de grandes fatigabilités pour les personnes en fonction des environnements. Une personne qui va avoir par exemple une hypersensibilité visuelle, travailler dans une salle de classe éclairée au néon en plein hiver, pour elle ça va être
la torture,
épuisant pour elle. Ensuite il y a des particularités cognitives, donc les personnes qui ont un trouble autistique, généralement elles ont une vision qui est beaucoup plus centrée sur les détails, des problèmes d'organisation, de planification, des difficultés à communiquer, à comprendre l'implicite dans la communication, par exemple. Tout ça, ça va entraîner en fait des difficultés au niveau des interactions sociales, un besoin des personnes de se replier sur soi. Alors les particularités sensorielles et la fatigabilité qu'elles entraînent aussi, ça entraîne chez beaucoup de personnes un besoin de s'isoler. Donc c'est pour ça que les personnes autistes généralement sont perçues comme des personnes associables. Alors c'est pas qu'elles fuient ou qu'elles boudent les gens, hein, c'est juste que Parfois elles sont complètement épuisées, elles ont besoin de s'isoler pour récupérer un peu et recharger les batteries.
Alors est-ce qu'on peut s'arrêter rapidement sur ce que vous venez de dire sur la fatigabilité et recharger les batteries, avec cet exemple de Julie Daché, peut-être une vidéo que vous avez pu voir sur les réseaux sociaux ou sur internet, avec une explication de ce que peuvent vivre et cette histoire de batterie, hein, les personnes autistes, avec un exemple avec les cuillères. Est-ce qu'il est possible d'expliquer?
Alors en fait elle explique ça à travers la théorie des cuillères. Donc c'est quelque chose qui n'a pas été fait pour illustrer ce que c'était que l'autisme à la base, mais qui peut aussi très bien le faire. En fait, l'idée, c'est que chaque personne part avec un capital énergétique, on va dire, d'une dizaine de cuillères dans la journée. Et en fonction de chaque individu, dans des situations plus ou moins différentes, la personne va dépenser des cuillères. Donc, par exemple, courir un 100 mètres, ça va vous faire dépenser un certain nombre de cuillères. Et en fait, les personnes qui sont atteintes de maladies ou de handicap, par exemple, les personnes qui sont porteuses de handicap, ces personnes-là, elles vont avoir à dépenser des cuillères dans des situations, des contextes, en fait, où une personne valide dépenserait aucune cuillère. Pour illustrer quelque chose qui va parler à tous, quand vous avez une grippe, vous dépensez beaucoup de votre capital énergétique en cuillère pendant la journée à produire des anticorps pour lutter contre la fièvre, microbes, virus, etc. Donc une personne autiste, en fait, elle va dépenser des cuillères parce que l'environnement sensoriel ne va pas être adapté, par exemple si c'est trop lumineux, si c'est trop bruyant, en fonction du profil sensoriel, hein, toujours, ou alors dépenser... En termes de communication, par exemple, une personne autiste va dépenser des cuillères à communiquer avec n'importe quelle autre personne, alors qu'une personne typique, elle va plutôt avoir tendance à se ressourcer en discutant avec d'autres personnes. Donc pour une personne autiste, une conversation avec une personne qui peut parler très vite, très fort par exemple, avec des expressions faciales très, très marquées, ça va être très fatigant. Parler à une autre personne autiste, ça va être un peu moins fatigant par exemple. Enfin voilà, c'est aller faire des courses dans un magasin où l'environnement sensoriel est particulièrement éprouvant. Pour une personne autiste, ça va aussi dépenser beaucoup plus de cuillères que pour une personne typique. Alors... Tous efforts au niveau cognitif aussi à faire pour compenser l'autisme, ça va aussi dépenser des cuillères.
C'est épuisant.
Etc. Donc les personnes peuvent se retrouver comme ça avec des capitales énergétiques réduits à zéro cuillère dès midi parce que matinée a été épuisante par exemple.
Alors justement, quels sont les signes précoces, Gaël, de l'autisme ?
Alors les signes précoces de l'autisme, en fait ça va varier beaucoup en fonction de la forme d'autisme. Comme un miracle n'arrive jamais tout seul, quand un enfant est atteint d'autisme, dans la plupart des cas il y a des comorbidités associées. Une comorbidité, en fait, c'est un autre handicap qui va être associé, un autre trouble. Donc par exemple, vous avez souvent, il y a la question de la déficience intellectuelle qui peut être associée à l'autisme. Il peut y avoir aussi des troubles déficitaires de l'attention avec hyperactivité ou des troubles dys comme la dyslexie, la dysphasie, etc. Donc en fait, repérer les signes précoces de l'autisme, ça va surtout dépendre de ça. Généralement, les enfants qui présentent une déficience intellectuelle associée, on peut voir les premiers signes vers l'âge de 18 mois, voire avant. Pour ceux qui ont un bon niveau de fonctionnement, qui n'ont pas de déficience intellectuelle, les signes, on va les voir plutôt entre l'âge de 3 et 5 ans. Et peu importe la sévérité de l'autisme, hein, que l'autisme soit léger, modéré ou sévère, généralement c'est plus les comorbidités et puis les capacités de fonctionnement derrière qui vont faire que les signes vont être plus ou moins précoces. Il y a des personnes, et notamment les filles, qui peuvent passer complètement à côté jusqu'à très très tard, vers l'âge de 10 ans ou vers l'adolescence.
Alors, on a une question d'une auditrice qui pose alors, à peu près de comment reconnaître un autisme léger chez un enfant. Vous souhaitez rebondir sur cette notion d'autisme léger ?
Oui, en fait. Comme il y a quelques comorbidités qui sont associées, en fait, l'autisme léger, ça ne veut pas dire grand-chose. Un adulte sans déficience intellectuelle, il aura l'air généralement d'un autiste léger, alors que ça ne présume en rien de la sévérité de ses troubles autistiques à la naissance. Donc il y a une question de développement, même chez un enfant de 5 ans, il y a une question de développement et de compensation des troubles. Ensuite, un enfant qui présente aussi un trouble hyperactif, Là, pour le coup, les signes de l'hyperactivité vont être bien plus visibles que ceux de l'autisme. Donc, on va pouvoir penser qu'il a un autisme léger aussi, sauf que ça, pas du tout, ça n'a rien à voir, quoi.
Pardon. Je voulais rebondir sur votre cas à vous. Vous me disiez que vous avez été diagnostiqué donc autiste il y a seulement 2 ans. Est-ce que vous pouvez nous donner votre âge pour qu'on sache vers quelle heure ça a été diagnostiqué ? À quel âge vous avez ?
Moi, en fait, j'ai eu mon diagnostic à l'âge de 31 ans.
31 ans.
J'ai commencé à me poser des questions, en fait, à l'âge de 30 ans. Mmh. Après, des signes précoces, j'en ai eu, puisque j'ai acquis le langage à l'âge de 3 ans, donc j'ai eu un retard de langage. Mmh. À l'école, j'avais des comportements, j'ai eu pas mal d'instits et de profs dans ma vie, quelques-uns qui... avait déjà vu des enfants avec des troubles autistiques et qui ont essayé d'alerter ma mère.
Donc les signes étaient là, mais n'ont pas forcément été diagnostiqués avant.
Non, en fait, dans les années 80, les personnes qui étaient diagnostiquées, c'était vraiment les personnes qui présentaient des signes sévères d'autisme. Des choses, l'enfant qui se tape la tête contre les murs, qui arrête pas de se balancer, moi j'étais pas du tout là-dedans. À l'âge de 3 ans, ma mère a eu un rendez-vous avec un pédopsie, la personne m'a vu et puis ma mère est venue parce qu'il y avait des soupçons d'autisme pour la voir, cette personne, et la pédopsychiatre a répondu que je pouvais pas être autiste parce que j'avais un pied sur Terre et un pied dans l'hyperespace, et que pour être autiste, il fallait être
les deux pieds dans l'hyperespace. Si vous avez des questions ce matin, n'hésitez pas à les poser. Plus 33 652 300 342. On va parler encore de pas mal de choses. On va parler du travail, des hommes et des femmes. On verra que les femmes autistes ont plus de problèmes pour s'insérer dans la vie professionnelle. Et on va voir pourquoi. Enfin, des problèmes. C'est peut-être pas de leur côté, mais peut-être du côté de l'employeur. On verra tous les détails dans un instant. Vos questions, réactions également sur la page Facebook de Phare FM.
On a une question. Alors, c'est vrai que les vaccins, en ce moment, ont mauvaise presse. Et peut-être aussi pour ça, doublement, que cette auditrice nous pose la question. Téla nous demande s'il y a un lien entre les vaccins et l'autisme. Gaëlle Lodors.
Alors non, en fait, il n'y a aucun lien entre les vaccins et l'autisme, il s'agit d'une légende urbaine. Les vaccins sont administrés aux enfants dès leur plus jeune âge, et les signes de l'autisme arrivent pas tout de suite, en fait, au niveau après la naissance. Ça arrive au bout de quelques mois, voire quelques années pour certains enfants. Donc en fait, il y a confusion dans la tête de beaucoup de parents. Comme les enfants sont vaccinés en bas âge et que les signes de l'autisme apparaissent en bas âge également, donc du coup ils font un rapprochement, alors que l'autisme c'est un handicap qui est présent dès la naissance, donc les vaccins n'ont vraiment aucune incidence sur le... Voilà, il y a aussi depuis quelques semaines, là il y a une rumeur comme quoi aussi les écrans provoqueraient de l'autisme, mais là encore scientifiquement il n'y a rien qui peut être démontrable parce que l'autisme est présent dès la naissance, donc un écran ça peut pas rendre un enfant autiste.
Alors justement, la question, c'est là elle a beaucoup de questions concernant l'autisme, elle pose la question de savoir si c'est héréditaire.
Alors les causes de l'autisme, en fait, elles sont pour l'instant assez mal connues. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a 3 pistes. Une piste génétique, donc oui, ce serait héréditaire en partie. Il y a la piste environnementale, donc notamment l'exposition à des pesticides, certains produits chimiques qu'il peut y avoir dans les maisons ou certains polluants qu'on a en ville. Tout ça, ça peut avoir une incidence sur le fœtus pendant la grossesse. Et ensuite, il y aurait une origine aussi organique.
D'accord. Donc on voit que pour l'instant, les origines ou les causes des troubles autistiques ne sont pas encore très claires. On va revenir dans un instant dans une thématique que j'abordais tout à l'heure, à savoir l'autiste et l'emploi. Voir un petit peu tous les obstacles qu'il peut y avoir sur le chemin de la personne avec des troubles autistiques. Ça sera dans un instant.
Sandrine, Nathanaël, c'est Positif Morning.
On parle de l'autisme ce matin. Lundi, ce sera la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme et on a préféré traiter ça aujourd'hui. Alors profitez-en, c'est avec notre invité Gaël Ledorge, le président de l'association de la Maison de l'Autisme, qu'on en parle. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Gaël, on a parlé tout à l'heure de signes précoces de l'autisme. Ce qu'on n'a pas vraiment abordé avec vous, ce sont les signes qui doivent alerter peut-être des parents justement qui nous écoutent, ou même des gens qui ne sont pas forcément parents. Vous nous disiez que vous avez été diagnostiqué à 31 ans, donc des adultes aussi qui nous écoutent. Quels sont les signes qui doivent alerter ?
Alors chez un enfant, les signes qui doivent alerter, chez un nourrisson en fait, ça va être l'évitement du regard, par exemple avec le parent. Mmh. Mais c'est pas un signe qu'on voit forcément chez tous les nourrissons autistes. Va y avoir aussi, arrivé à l'école, par exemple, l'enfant reste en retrait par rapport aux autres enfants dans la cour de récréation, par exemple. Il a du mal à se faire des amis. Va y avoir aussi avec l'autisme, chez les jeunes enfants, on retrouve aussi beaucoup de gestes stéréotypés. D'utilisation un peu bizarre du langage avec de l'écolalie, c'est-à-dire répéter des morceaux de phrases sans pour autant que ça colle vraiment au contexte. Ensuite, dans les comportements, un enfant qui aime beaucoup peut-être tournoyer sur lui-même, se balancer. Mais enfin bon, ça concerne quand même, enfin on voit ça chez pas mal d'enfants, donc c'est toujours très compliqué quoi de voilà. Quelque chose qui peut alerter, ça peut être par exemple aussi les jeux de l'enfant. Les enfants ont des jeux de faire semblant, par exemple. On fait semblant de jouer à la maman, à la maîtresse, etc. Un enfant autiste, lui, il aura très peu de jeux comme ça. En tout cas, il ne sera pas à l'initiative. Il peut être stimulé par ses frères et sœurs, par exemple, mais il ne sera jamais à l'initiative de jeux comme ça. Il va peut-être, par exemple, une petite fille va peut-être, par exemple, jouer à la poupée, mais peut aligner ses poupées, par exemple, ce que ferait vraiment une fille typique. Un garçon, par exemple, ou une fille aussi, peuvent empiler des cubes pour faire des tours, et ça, pendant des heures, peuvent aligner aussi des petites voitures, enfin, voilà, il y a des signes qui sont assez variés. Quoi.
Alors, on parle des signes, mais aussi il y a différents types d'autisme. Les plus connus, on va dire, ont été mis en avant par des films. On peut parler de Rain Man, on peut parler aussi de Forrest Gump et encore plein d'autres. Le Rain Man, si je ne me trompe pas, c'est un syndrome type Asperger. On peut expliquer un petit peu les différents types et celui-ci qui, semble-t-il, a été bien médiatisé.
Alors en fait, au niveau des classifications internationales, il y avait plusieurs troubles autistiques jusqu'au début des années 2010. Donc on distinguait le syndrome Asperger par exemple, l'autisme de Kanner, autisme sévère par exemple, autisme atypique, etc. Autisme de haut niveau aussi, voilà. Et c'était censé correspondre à des critères qui sont assez spécifiques. Théoriquement, sauf que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a autant de formes d'autisme que d'autistes, donc on peut très bien se retrouver avec Rain Man. On dit qu'il a un syndrome Asperger parce que généralement les personnes qui n'ont pas de déficience intellectuelle, on dit qu'elles ont un syndrome Asperger ou un autisme de haut niveau. Après, clairement, Rain Man, dans le film, il y a des comportements qui font plus autisme de Kanner que... Que syndrome Asperger. Enfin voilà, c'est pour ça qu'on a abandonné en fait ces différentes classifications au début des années 2010 pour tout regrouper ça dans une même case, trouble du spectre de l'autisme, pour éviter ce genre de confusion avec des personnes qui pouvaient avoir des signes qui représentaient plutôt tel trouble autistique et d'autres signes qui représentaient tel trouble autistique. Donc en termes de prise en charge, ça rimait pas à grand chose de faire des
classifications comme celle-ci.
Le thème cette année, Gaël, c'est l'autonomisation des femmes et des filles autistes, avec quelque chose qui peut être surprenant ou pas, vous allez nous le dire. Les femmes handicapées ont un taux d'emploi inférieur à celui des hommes handicapés et des femmes non handicapées.
Alors oui, l'autisme c'est une forme de vulnérabilité, donc dans notre société, quand on présente une vulnérabilité, généralement on a moins facilement accès à l'autonomie, l'insertion professionnelle, la vie amoureuse, tout le monde est au courant aussi de la situation en termes d'égalité des sexes. Être une femme, c'est aussi présenter une forme de vulnérabilité. Donc, quand on présente un handicap et en plus, quand on est une femme, on porte deux vulnérabilités. Donc, l'accès à l'emploi, il va être beaucoup plus compliqué. Mais la question des femmes qui est traitée cette année, elle est importante, puisque généralement les troubles autistiques, en fait, ils ont été analysés dans les années 40 sur des petits garçons. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de mal à diagnostiquer les filles et les femmes. Les manifestations des troubles autistiques ne sont pas les mêmes. Donc les repérer aujourd'hui, c'est un véritable enjeu. Le diagnostic des femmes, le diagnostic de l'autisme dans la population générale, c'est un enjeu. Celui le diagnostic des femmes en particulier, c'est un enjeu encore plus important, quoi. C'est pareil après en termes de parcours de vie, les femmes vont être confrontées à des difficultés qui vont être légèrement différentes de celles des hommes. Elles ont beaucoup beaucoup plus de difficultés à s'insérer professionnellement que les hommes. Par contre, elles vont avoir plus de facilité à construire une vie affective. On en reparlera de toute façon après, mais quand on présente de l'autisme, il y a aussi quelques avantages. La situation pour les femmes, même si elle présente un avantage au niveau de la vie affective, encore que pour beaucoup c'est pas le cas, mais dans la littérature c'est ce qu'on peut lire. La question de l'autisme au féminin, c'est vraiment un enjeu important depuis quelques années.
Et on parlait des personnes autistes et de la complication de trouver un emploi, en tout cas ça peut l'être. Par contre, ça ne l'est pas forcément pour certains types d'autisme, comme les autistes Asperger, je crois bien, dites-moi si je me trompe, notamment du côté de la Silicon Valley, Sandrine, puisqu'il semblerait qu'on engage donc des personnes autistes à tour de bras là-bas. Qu'est-ce qu'il en a exactement ?
C'est un peu comme l'histoire des vaccins, c'est aussi une légende urbaine.
Ah.
Les autistes Asperger ne sont pas facilement employables. À l'heure actuelle, en France, il y en a 80 ou 90% qui sont sans emploi. En fait, on a une image assez erronée de l'autisme en génie des mathématiques ou ingénieur informaticien, et c'est un peu ça dont on parle dans la Silicon Valley. Les autistes, c'est comme les personnes normales, il y en a qui sont beaucoup plus doués dans les disciplines littéraires et d'autres qui sont beaucoup plus doués dans les disciplines mathématiques. Un autiste qui va être plutôt bon en maths, il va pouvoir réussir peut-être plus facilement tout ce qui tourne autour de la programmation, des métiers de l'informatique. Mais c'est une personne qui aura quand même un accès à l'emploi qui va être beaucoup plus compliqué que pour une personne normale. Alors, dans les troubles autistiques, en fait, on retrouve aussi une question de centre d'intérêt. On a tous des centres d'intérêt, mais chez une personne autiste, ça va se manifester différemment par l'intensité, par la recherche du détail aussi. Et donc, du coup, quand on développe, par exemple, un centre d'intérêt sur la programmation de logiciels ou de jeux vidéo, ça peut donner des avantages vraiment importants pour accéder au marché du travail. Mais ça n'est pas le cas de tout le monde, des autistes qui développent ce genre de centre d'intérêt. Par exemple, nous, dans l'association, on a une quarantaine de membres. J'en ai, je crois, deux qui ont des centres d'intérêt qui tournent autour de la programmation. Donc, c'est une espèce d'image d'épinal de l'autiste ingénieur informaticien et qui est faux. Et c'est pas parce qu'on n'a pas de compétences en maths qu'on peut pas forcément accéder très facilement à un emploi. Me concernant, j'ai jamais eu de grosses difficultés à accéder au marché du travail. Pourtant, mes centres d'intérêt, ça tombe pas du tout autour des matières scientifiques ou des mathématiques. Je suis beaucoup plus dans les matières littéraires et l'art, la musique notamment, et ça m'a suffi pour. Ça m'a permis de développer des compétences autres que des compétences informatiques et d'accéder à un emploi assez facilement.
Alors, on va devoir terminer cette émission, Sandrine, qui est forte intéressante, mais on peut continuer aussi à réfléchir et à voir un petit peu plus d'informations concernant l'autisme.
Oui, tout à fait. Et en allant sur le site Participate, comme participer en anglais, participate.be, et Gaël Le Dors nous disait hors antenne que ce site comporte des informations fiables et que c'est notable parce que justement, on en parlait, il y a pas mal de légendes urbaines et de choses fausses qu'on peut dire autour de l'autisme. Participate.be si vous voulez avoir plus d'informations sur l'autisme. Gaël Le Dors, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.
Bah merci de m'avoir invité.
Avec plaisir.
Et Sandrine, on se retrouve. Moi, je me retrouve tout seul demain dans le Positive Morning. On se retrouve la semaine prochaine ensemble.
Bye bye.
Au revoir.
Bon week-end.